Alors, on va refaire la toute fin du départ du voile, quand le présentateur dit « Nous avons fini cette série d'émissions ». Et ensuite, on enchaîne avec la catastrophe. Ouais, mais après, c'est bon.
Nous sommes sur le plateau de la Salle Coltès, au Théâtre National de Strasbourg. Caroline Guélène-Guyenne, directrice du TNS et metteuse en scène, répète sa dernière pièce, Lacrima, qui jouera au Festival d'Avignon cet été. Sa collaboratrice, Paola Secret, fait répéter la dernière scène du spectacle.
Thibaut, si tu peux mettre le micro, s'il te plaît.
Donc là, on est d'accord, c'est le moment où tout le monde est en train de sortir et... Ok. Parce que c'est la fin avec les filles qui disent au revoir. Ah, et Nani, tu sors par la porte 3. Porte du fond et Dina, porte 1. Ok. Le voile est en train de sortir et le présentateur dit sa dernière réplique. Vas-y.
Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cette série de 3 émissions spéciales consacrées aux dentelières d'Alençon. Merci à Vera, merci à Sophia et merci à Thérèse. Vous pouvez retrouver ces émissions sur notre site internet en podcast. Merci et à très bientôt sur Radio Perche, la radio de tous les perchés.
Ok.
Il est 19h sur France Culture et nous sommes en même temps à Paris, à Alençon et à Mumbai. La nouvelle fiction de Caroline Guélène-Guyenne, Lacrima, trace l'histoire des corps d'un bout à l'autre du monde. Tous sont reliés par une commande, la robe de mariée de la princesse d'Angleterre. Une maison de couture a 8 mois pour confectionner la robe. Alors dans le plus grand secret, l'atelier de Paris, mais aussi les dentelières d'Alençon et aussi les brodeurs de Mumbai en Inde vont se mettre au travail. Sur scène, on parle anglais, français, tamoul et la langue des signes. On parle aussi le silence, cette langue à part qui se met à raconter beaucoup. À l'intérieur des broderies, du tissage, sont inscrits les histoires de ceux et celles qui ont passé des heures, des larmes parfois, du sang à la tâche. Petit à petit, le silence qui maintient la violence intime va se voir attaqué. Les tissages vont parler. Caroline Guélène-Guyenne travaille toujours sur les récits et les corps manquants des plateaux de théâtre. Cette fois-ci, elle sonde le secret. Il y a les yeux des brodeurs et des dentelières qui s'abîment. Il y a des mères qui ont décidé de ne pas parler, des violences faites aux femmes, et des enfants qui voudront redresser la tête de leurs parents et considéreront l'injustice comme un incendie à éteindre. Sur scène, des comédiens amateurs et professionnels de 18 à 82 ans dont Liliane, qui monte sur un plateau pour la première fois, elle qui était auxiliaire de puériculture, se retrouve dentelière face à des acteurs complices depuis des années, comme Dan Arthus ou Maud Le Grévelec. Le sous-titre de Lacrima, c'est « Une histoire contemporaine des larmes ». Caroline Guélène-Guyenne continue de faire parler les larmes et d'éteindre les incendies.
Pour vous dire que là, on va enregistrer Liliane pour un message, donc si on peut avoir le silence au plateau. Et après, on commence avec... on peut redémarrer avec le départ du voile, mais du coup, peut-être reprendre la fin de Thérèse et Jacques.
Nous sommes au TNS, Théâtre National de Strasbourg, que Caroline Guélène-Guyenne, metteuse en scène et autrice, dirige depuis septembre 2023. Son spectacle Lacrima sera créé à Strasbourg du 14 au 18 mai, avant de partir au Festival d'Avignon du 1er au 11 juillet. C'est encore le moment des répétitions. À 2 semaines de la première, nous sommes avec Caroline Guélène-Guyenne et 3 des interprètes.
Bonjour, je m'appelle Vincent Selvom, je suis indien. Je travaille avec Caroline Guélène-Guyenne dans le spectacle Lacrima. Je joue plusieurs personnages dans le spectacle aussi.
Maud Le Grévelec, je suis première d'atelier dans le spectacle Lacrima de Caroline Guélène-Guyenne.
Et bien moi, je suis Liliane Lipo. Je suis dentelière dans la pièce. Je suis la doyenne des dentelières.
C'est bon pour toi, Liliane ?
Oui.
Allez, c'est parti.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture.
Caroline Caroline Guilain-Guyenne, il y a l'histoire de cette robe et de la fabrication de cette robe. On va traverser trois lieux différents dans la pièce. À quel moment vous avez senti que l'histoire de cette robe pouvait rassembler le destin de plein de personnes différentes et de plein de vies différentes à Alençon, en Inde et à Paris, et que ça allait être ça le départ de la fiction?
Très très rapidement. En fait, j'avais très envie, dès le début, de trouver un élément qui allait fédérer tout le monde. Je savais pas encore qu'il allait y avoir l'Inde. Je savais en fait que j'avais envie de travailler sur la question du secret. Et c'est en lisant des choses de façon totalement hasardeuse sur Lady Di et sur sa robe de mariée que j'ai découvert en fait cette espèce de secret qui a été fait autour de sa robe, de la confection de sa robe. Et même dans ce que j'ai lu, il y avait deux robes en fait qui avaient été faites au cas où une des deux serait en fait spoilée par la presse. Et tout un protocole aussi de mise sous confidentialité, pardon, des techniques de couture, parce que même le soir, il demandait à la maison qui donc faisait la robe de mettre les chutes de tissu, de les mélanger avec d'autres tissus, d'autres collections. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. Et je me disais, tiens, c'est comme ça que je suis rentrée dans la question de la... Donc, comme je voulais travailler sur le secret, je me dis, tiens, la confection d'une robe. J'étais beaucoup partie aussi sur la question du secret entre mère, fille, grand-mère, mère, dans des choses comme ça, très du côté des femmes. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder tous les métiers qu'il pouvait y avoir autour de la couture. Donc je suis allée évidemment, j'ai rencontré des premières d'ateliers, des patronneurs, des dentelières. Je suis allée à Alençon, ça a été vraiment très fort pour moi la rencontre avec la dentelle à Alençon. Et il y a eu un moment où il y a eu une espèce de coup de théâtre dans mon écriture, puisqu'en fait je me suis rendu compte que les broderies sont la plupart du temps, même en grande partie, faites à Mumbai par des hommes musulmans. Et jusqu'à présent, j'étais vraiment dans un monde à 95% féminin, et tout d'un coup, j'arrive en Inde, et tout d'un coup, je découvre ça. Et j'ai aimé cette idée-là, j'ai aimé que ça vienne challenger en quelque sorte mon écriture à cet endroit-là. Et c'est comme ça que je suis partie en Inde, et que j'ai découvert, du coup, les métiers des brodeurs qui se transmet de père en fils. Donc, on était dans quelque chose d'un miroir quasi absolu, même par rapport à la dentelle. Et j'ai eu la conviction très forte que du coup la robe me permettait vraiment de tisser, c'est le cas de le dire, toutes les fictions entre elles, quoi.
Et vous parlez de secret. Le secret, c'est très vite donc le silence, et c'est assez fort cette idée du silence à propos de cette robe, puisqu'il y a un contrat qui fait que pendant 100 ans, ces lieux sont sous silence le secret de la confection est sous le silence. Et évidemment, le silence, c'est aussi le silence des vies qui ont travaillé à cette robe, des histoires. Est-ce que ça, c'était aussi là depuis le départ, l'idée de parler du silence qui tait finalement les violences aussi intimes?
Complètement. C'était la question du silence, elle m'a été très fortement renvoyée quand je suis allée à Alençon. Et que moi, au début, de façon un peu bête, je pensais que la dentelle d'Alençon, c'était un peu comme si on pouvait s'imaginer des femmes en train de coudre, mais qui pouvaient un peu parler les unes à côté des autres, se raconter leur journée, la veille, tout ça. Et en fait, la dentelle d'Alençon, mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, ça demande un silence total, et les femmes sont plongées dans du silence pendant... Là, elles travaillent que maintenant une matinée. Parce qu'elles ne peuvent pas travailler des journées entières, contrairement à il y a quelques années, parce que sinon, en fait, ça tue leurs yeux. Et donc, pendant une demi-journée, au moins, ces femmes ne parlent pas. Mais même, elles ne parlent pas, c'est ce que je raconte à un moment dans la Crima, c'est que même quand les dentelières voulaient juste prendre une respiration un peu plus forte qu'une autre pour se détendre, à l'époque, elles étaient même mal vues par les maîtresses dentelières. Et je me suis tout de suite dit effectivement qu'il y avait une analogie comme ça très forte entre le secret et le silence. De fait, après, j'ai vu que toutes les fictions que j'avais commencé à rassembler, que ça soit d'un point de vue intime ou politique, il y avait toujours finalement ce silence, et comme si le silence était la condition même de l'exercice de la violence en quelque sorte. Et du coup, ben, j'ai eu effectivement une autoroute devant moi avec, par exemple, quand je suis allée en Inde, c'est pareil, avant de rentrer, je recevais un mail qui me disait « Vous ne pourrez pas parler aux brodeurs. Vous n'avez pas le droit de rentrer les téléphones portables. Vous ne devez pas savoir sur quelle collection les brodeurs travaillent. Ils n'auront pas le droit de vous le dire. » En fait, c'était présent absolument de partout. Et même, il y a un silence qui m'a même étonnée, un silence quasi pas voulu, c'est que sur les techniques de broderie, vraiment, en fait, c'était très, très complexe d'avoir un début d'explication, en fait. C'est comme si c'était cette chose se passait comme ça, d'une personne à une autre, dans une forme de silence. Et d'ailleurs, pour revenir à Alençon, il y a une chose qui est très forte. Alors là, bon, je spoil un peu, mais... J'ai découvert donc à Alençon que pendant des années la dentelle était tenue par des religieuses qui donc à la fois s'occupaient de la dentelle mais qui à la fois aussi avaient une école qui permettait d'enseigner à des personnes sourdes. Et quand les maîtresses dentelières se sont rendues compte qu'en fait il ne fallait pas parler, elles se sont dit ben très bien, en fait on va confier la confection de la dentelle à ces femmes sourdes. Et donc, dans les ateliers, il existait à la fois la moitié des dentelières qui parlaient et d'autres qui ne parlaient pas. Et comment est-ce qu'elles faisaient, et c'était souvent les femmes sourdes et qui ne parlaient pas, qui transmettaient la dentelle. Et ben, quand je pose la question à des dentelières aujourd'hui qui parlent et que je leur demande comment est-ce qu'elles ont fait pour apprendre, alors que les dentelières n'oralisaient pas, celles qui étaient sourdes, et ces femmes qui parlaient ne savaient pas signer, et ben, elles ne savent pas. Mais ça s'est transmis. Et voilà, du coup, en fait, effectivement, le secret, le silence, tout est arrosé comme ça dans chaque étape et chaque lieu qui habite notre fiction.
Nous sommes en répétition. Cet après-midi, la collaboratrice artistique de Caroline Guélan-Guyen, Paola Secret, a pris le relais pour répéter la scène finale de Lacrima.
Je tiens à vous féliciter. C'est un travail remarquable. Le dessin est d'une finesse incroyable et la réalisation bouleversante.
Merci. Merci.
Je me suis souvenue de l'histoire qui accompagne toujours les personnes qui travaillent la soie en Chine, car avant d'être à Londres, je m'en occupais du département de textile au palais de Pékin. En Chine, effectivement. Et alors, on racontait qu'il ne faut jamais défaire un tissage, car le tissage de la soie était fait pour enfermer les larmes de l'époque.
Ok, c'est là où vous allez chercher les gants. Et donc, c'est le moment.
Et donc, c'est le moment.
Malheureusement, vas-y.
Oui, malheureusement, c'est le moment. À vous, mesdames, l'honneur.
Et il y a la voix off, parfois, de la princesse qui commande cette robe et qui dit à un moment « Je voudrais porter l'histoire de mon pays, je ne veux pas être une page blanche. » Et cette phrase revient « Je ne suis pas une page blanche. » Et il y a cette idée-là que sera inscrit dans la robe une histoire. Mmh. Et finalement... dans le tissage, dans les broderies, dans le voile, est inscrit l'histoire de chaque main, chaque être qui le fabrique et qui est aussi un peu en sourdine et qui va être libéré dans la fiction petit à petit. Est-ce que cette idée-là aussi, c'était un des fils de la fiction de libérer l'histoire
Ouais, complètement.
Qui est enfermée et inscrite à l'intérieur de... du tissu et de la matière.
Ouais, du geste même. Oui. D'ailleurs, une des le voile dont je parle dans la fiction est un voile qui existe vraiment. C'est un voile donc qui est actuellement au musée d'Alençon et c'est un voile qui est une pièce dont moi je suis allée la voir absolument phénoménale. Hein. C'est sublime. Et la première fois que j'ai parlé à Johanna Maubussin, qui est donc conservatrice du musée d'Alençon, elle m'a raconté que les femmes dentelières ne connaissaient pas l'existence de ce voile. Et d'ailleurs, il y a un mystère total autour de ce voile. C'est qu'elles ne savent pas pour qui il a été conçu. Elles ne savent pas. Elles ont à peu près, par rapport au dessin, puisqu'à l'époque, c'était pas les dentelières qui dessinaient, c'était d'autres personnes. Donc, des dessins qu'elles ont retrouvés, elles arrivaient un peu à le dater en début de siècle. Mais ce voile qui a demandé des années et des années et des années de confection, elles ne savent pas pour qui il a été fait. Bref. Ce voile, un jour, réapparaît dans une vente aux enchères. Elles arrivent parce que, elles arrivent à le récupérer. Donc, maintenant, il appartient au musée d'Alençon. Et Johanna me dit que quand elle reçoit les photos de ce voile, il y a, mais vraiment, et ça a été confirmé par les dentelières que j'ai rencontrées, il y a des dentelières qui ont pleuré, il y en a même une qui a eu un vertige, qui a failli s'évanouir. Et je lui dis, mais pourquoi? Et elle me dit, mais parce qu'en fait, vous, quand vous voyez le voile, vous voyez la beauté du geste, nous, on voit les larmes et le sang. C'est-à-dire, nous, on voit le nombre d'années, d'heures, de secondes, de minutes, de silence, de problèmes ophtalmologiques sûrement que ça a dû créer, qui ont fait la beauté du geste, mais qui accompagne ça. Et c'est vrai que j'avais envie aussi, avec Lacrima, de déplier en quelque sorte le temps. En fait,
D'ailleurs, oui, même au début, il est compté en heures de travail, je crois.
Ouais.
On est 8 mois... plutôt 7300 heures de travail plutôt.
Ouais, on calcule en temps de travail. Et donc effectivement, ça, pareil, ça me donnait encore une analogie assez forte, ou une métaphore, ou une image assez forte pour voir comment est-ce que finalement à chaque fois que l'on tisse, à chaque fois que l'on coud, c'est aussi, j'avais lu ça un jour justement dans un conte chinois qui disait qu'en fait il ne fallait jamais défaire le tissage en fait d'une soie parce qu'en fait il renfermait les larmes d'une époque. Et c'est un peu ça en fait que j'essaye de faire en fait avec Lacrima, de me dire ben tiens, et si dans ces 200 000 perles cousues sur cette traîne, si sur ces centaines et milliers d'heures de ce voile, si sur ces centaines et centaines d'heures passées à faire un patron d'une robe, voilà, étaient enfermées aussi finalement les larmes de l'histoire et de la géographie dans lequel tout ça est fait, voilà.
Et d'ailleurs, il y a cette robe qui est faite pour habiller un corps, celui de la princesse. Mais on parle beaucoup dans la fiction, dans ces trois lieux-là, de l'impact de cette commande sur les corps, évidemment, de ceux et celles qui fabriquent.
Ouais.
Et notamment sur la vue des brodeurs, des dentelières.
Mmh.
Et la façon dont ça transforme complètement ces corps-là.
Ouais. Oui. Oui, donc, enfin, comment les personnes y laissent quelque chose. Alors, mais en même temps, enfin, il n'y a pas de mais, oui, ça les transforme, ça les abîme. Et quand je parlais avec une dentelière à Alençon, elle me disait, en même temps, la pire des choses qui pouvait m'arriver, ou la pire chose qui m'est arrivée, parce que ça y est, maintenant, elle a arrêté, c'est de me dire, ça y est, maintenant, c'est fini, on arrête. Et même, elle me racontait qu'elle rêvait d'être myope pour pouvoir voir de plus près. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette chose qui, du coup, leur coûte, en fait, vraiment. Et à la fois, c'est un sacerdoce très fort. En Inde, c'est d'autres problématiques. C'est justement comment est-ce qu'on arrive à ce que ces hommes, et là, du coup, enfin, à valoriser, en fait, ces métiers, parce que moi, je l'ai découvert que dans les plus grands défilés de haute couture, c'était des hommes musulmans qui faisaient les plus belles choses qu'on avait devant les yeux. Moi, vraiment, c'est ce que je racontais la dernière fois à mon équipe quand je suis revenue. Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple, de pleurer de devant la beauté. Par exemple, je sais qu'il y a des gens, et je trouve ça formidable, mais qui ont pleuré devant la beauté d'un tableau ou devant la beauté de... Moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. Quand j'étais en Inde, vraiment, j'ai vraiment pleuré à force de voir la beauté des broderies qui sont faites par ces hommes-là, qui habillent d'ailleurs des femmes, c'est que des hommes. Enfin, il y a même, d'un point de vue quasi, même de l'image, c'est assez dingue à voir. Et pour autant, ces hommes ont donc de l'or entre les mains, hein. C'est un savoir-faire, voilà. Et pour autant, ça n'est pas du tout valorisé. Personne ne le sait. Là encore, il y a une forme de silence. Pourquoi ? Parce que peut-être, qu'est-ce que ça ferait de savoir qu'en fait, c'est fait en Inde ? Et par exemple, les hommes actuellement pour certains ateliers de broderie, en fait, il vaut mieux pour eux qu'ils travaillent comme conducteurs de taxi plutôt que d'être brodeurs. Ça rapporte beaucoup plus. Et il y a des pères qui refusent de transmettre à leur fils parce qu'en fait, ça leur abîmera, ça leur coûtera la vue et ça ne leur apportera pas d'argent. Enfin, pas assez. Donc voilà, du coup, c'est effectivement quelque chose que j'avais envie aussi de tisser.
Je pense, Liliane, ça peut être beaucoup plus simple, d'accord ? C'est plus, ça y est, maintenant, je sais me servir de WhatsApp, je sais te laisser des capsules, j'espère que tu vas bien, ça peut être beaucoup, tu peux être beaucoup plus direct. Vraiment, dis-toi que tu lui laisses un message.
Bonjour, Rosalie. C'est ta grand-mère, j'espère ne pas te déranger. Alors ça y est, je sais me servir de WhatsApp et je sais même te laisser des capsules vocales, comme on dit. J'espère que tu vas bien, je pense souvent à toi, tu sais. J'espère que tu ne souffres pas trop. Ta maman m'a dit que vous attendiez d'en savoir un peu plus sur ma sœur pour lancer ton protocole de soins. Vous pouvez y aller, hein.
Pendant la pause, trois comédiens nous ont rejoints. Maud Le Grévelec, qui joue la première d'atelier à Paris, Liliane Lippo, qui fait du théâtre pour la première fois de sa vie et joue une dentelière, et Vasant Selvam, d'origine indienne, qui a déjà joué dans le précédent spectacle Fraternité de Caroline Gyalan Guyen.
Maud Le Grévelec, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le tout début, la première session, quand vous arrivez en répétition ? Qu'est-ce que vous savez de la fiction qui va naître ?
Alors, avant de commencer les répétitions, j'ai reçu, comme la plupart de tous les membres de l'équipe, une sorte de Bible que Caroline nous a envoyée autour du thème qu'elle veut aborder. Et dans cette Bible, il y a des photos, des écrits, des témoignages qui l'ont nourrie autour justement du thème qu'elle souhaitait aborder en juin, qui était principalement autour des violences faites aux femmes. Et dans cette Bible, il y avait déjà des figures qui ressortaient, notamment une dentelière, l'histoire d'une dentelière à Alençon, une jeune femme aussi, enfin jeune, une femme expérimentée dans les ateliers de Paris, et aussi l'histoire d'une femme à Mumbai, dans mon souvenir.
Liliane Lippo, est-ce que vous êtes habituée de la scène ?
Pas du tout, c'est la première fois que je fais du théâtre.
Comment c'est arrivé ?
C'est un casting sauvage. C'est Lola Diane qui m'a demandé, j'étais tout près de chez moi, à Paris, et elle m'a demandé si j'étais intéressée par le théâtre. Je lui ai dit, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas, quoi. Et elle m'a demandé de lui envoyer une petite vidéo avec où elle me demandait ou de réciter un poème ou de lire quelque chose, quoi. Alors, je l'ai fait le lendemain et
voilà. Vous vous souvenez ce que vous avez fait ? Ce que vous avez lu ?
Oui, Victor Hugo. Non, je me souvenais de Victor Hugo, les souvenirs de ma jeunesse, quand j'étais à l'école. Victor Hugo, quand il allait sur la tombe de Léopoldine, voilà, ça m'a inspiré, je l'ai envoyé. Je me trouvais vraiment pas très, très, pas très bien, quoi. Où je me trouvais pas trop moche et c'était nul ce que je bégayais, ou c'était le contraire. Bon, enfin, elle m'a répondu, elle m'a remercié, et quelques temps après, on m'a demandé de venir faire un petit essai à Paris, au Théâtre Ouvert. Voilà. Et puis ça a commencé comme ça, j'ai eu 3 essais, et ensuite on m'a demandé de venir, enfin, si j'étais intéressée pour venir à Strasbourg, bien sûr. Enfin, au départ, je prenais pas ça au sérieux, quoi. Je me disais, enfin, je vais voir jusqu'où je peux aller, quoi. C'est tout, ça s'arrêtait là. Mais je me suis prise au jeu et ça me plaît beaucoup.
Et une fois que vous faisiez les improvisations, ensuite, j'imagine, Caroline Gyalan Guyen écrivait des choses, et puis, est-ce qu'une fois que c'était écrit, est-ce que c'est facile, là, de rentrer dans quelque chose qui était... qu'il fallait apprendre, répéter. Est-ce que ça, c'était aussi un nouveau travail ensuite ?
C'est peut-être plus facile d'improviser, mais...
Finalement.
Parce qu'apprendre, c'est pas toujours facile. Mais
Non, mais Caroline décrivait bien sûr en fonction de ce qu'on disait, de ce qu'on, la façon dont on parlait, dont on s'exprimait avec nos mots à nous souvent. Hein. Oui. C'est vrai.
Vous retrouviez, vous reconnaissiez vos mots
quand même,
à vous.
Oui.
Vincent de Selvam, est-ce que vous êtes nourri de ce que Caroline vous a raconté de son voyage à Mumbai? Qu'est-ce que vous connaissiez, j'imagine, pas forcément de ces ateliers, de ces hommes qui brodent?
Oui, c'est la première fois, moi aussi, j'ai découvert ce monde à Mumbai avec Caroline. Parce qu'elle, avec une petite équipe, elle faisait un petit voyage à Mumbai avant de commencer la répétition. C'est un monde que j'ai jamais imaginé pour moi aussi. Après, je viens de Sud. Mumbai, c'est déjà loin pour moi. Après, à Mumbai, pour découvrir tout l'atelier là-bas, après le travail, c'est vraiment mouvant. Le travail d'embroiderie, c'est énorme. Et quand j'étais dans un atelier, ils ont dit que cette pièce, ils sont vendus pour l'argent inimaginable à France. Après, les personnes qui font ça, la manière dont ils travaillent, c'est tellement différent. C'est dans un spectrum, la personne qui criait, à côté, c'était vraiment difficile.
Pour comprendre et intégrer le fait qu'il y ait des disparités si fortes entre ceux qui fabriquent et ceux qui achètent.
Oui, c'est ça.
I'm really sorry, Mario. We didn't want you.
Installez la traîne, s'il vous plaît.
Look, Mario, what happened. Like, there was a risk and you decided to take it.
Well, explain to me. We will discuss responsibility later.
Okay. Look, we placed the train under a sheet of silk paper to protect it from the heat because we knew heat would be a problem.
Okay, explain. I listen to you.
Look.
Allô. Ah ouais, ok, stop, c'est bien, c'était bien en tout cas là le changement. Il manque le mannequin avec le leurre du voile. Du coup, on va refaire ce passage-là, oui. Ça vous va?
Oui.
Et comme dans des précédents spectacles de Caroline Guillen-Guyenne, il y a plusieurs langues dans le spectacle, puisqu'il y a de l'anglais, du français, du tamoul, de la langue des signes. Comment ça s'organise en répétition, comment on navigue entre ces langues-là sur scène, Maud Le Grévelec ou Vassante ou...
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Parce qu'il y a un autre, il y a deux comédiens qui parlent tamoul. Il y a une femme incroyable, Raji, elle habite ici pour 40 ans. Pour elle, parle français aussi. C'est si bien pour elle, pour travailler avec Caroline, parce qu'elle comprend tous. Il y a un autre comédien, il s'appelle Vinod Charles. Lui, il ne parle pas français, il ne comprend pas français, comme moi, j'étais à fraternité. Pour lui, il y a quelquefois, il y a des traductrices, quelqu'un qui traduit. Après, en plus, il y a tamoul aussi. On improvise le signe en tamoul. C'est pour quelquefois on commence la scène, c'est qu'est-ce qui se passe, elle parle en français, après on parle en tamoul, quelqu'un traduit en anglais, c'est difficile. Après on trouvait la bonne balance petit à petit.
Et le fait de travailler ensemble sur le plateau avec des générations différentes aussi au sein des interprètes, des nationalités différentes, des langues différentes, on l'a dit, et puis des expériences différentes puisqu'il y a des professionnels et des non-professionnels. Comment on est porté par ça, par la diversité de l'équipe? Qu'est-ce que ça vous apporte? Le Grévelec.
Ben, par rapport à ce que disait Liliane, c'est vrai que je trouve que, enfin, ce mot, ouais, ça force à l'écoute et à la bienveillance, parce qu'on vient d'univers tellement, enfin, pas si différents peut-être, mais en tous les cas dans notre rapport au plateau, que on peut pas faire autrement, on n'a pas les mêmes codes, pour les comédiens, on a quand même un un langage un peu codé qu'on reconnaît assez facilement. Donc, ne serait-ce que de dire faire une italienne, c'est quoi une italienne? Faire une allemande, c'est quoi faire une allemande? Enfin, bon, nous, voilà. Enfin, pour nous, ça nous paraît même jardin court. Bon, même pour moi, c'est pas encore gagné. Ça reste encore compliqué. Non, mais tout ça, finalement, ça amène aussi pas mal, de légèreté aussi, parce que de remettre à plat les choses, de s'appréhender,
Moi, j'ai appris plein de choses au contact des comédiens professionnels.
Liliane Lippo, vous vous sentez comment quand vous sortez de scène?
Je suis heureuse. Si j'ai bien travaillé, si je sens que j'ai donné tout ce que je pouvais donner, si je me sens bien, ça va. Mais bon, quelquefois, je trouve que ça n'a pas été terrible, pour moi. Je sens que j'aurais pu mieux faire. Alors je me sens moins bien, mais sinon ça va. Je suis heureuse.
Alors je crois que le moment est venu.
Oui, malheureusement le moment est venu. Donc mesdames, c'est à vous l'honneur.
Donc de la même manière que le voile est arrivé, il va retourner dans sa voie et être enfermé pour 48 heures pour ne pas subir de choc thermique en arrivant à Londres.
Nous allons donc procéder à renfermer le voile.
Vas-y, attends, je sais pas, excuse-moi, je suis pas sûre que tu peux le garder. Vas-y, tu peux le dire à la...
Nous sommes dans les ateliers d'Alençon.
Nous sommes en direct des ateliers d'Alençon et nous sommes en train d'assister
au dernier trajet du voile.
Bonjour Rosalie.
Attends.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes toujours au TNS en répétition du dernier spectacle Lacrima de Caroline Guillelaine Guyenne.
Et les comédiens et comédiennes nous racontaient, comme souvent dans votre travail, au début de la première session de rencontre, qu'ils avaient la Bible, une Bible dans leurs mains, avec des images, des inspirations, des récits. À quel point ce voyage à Mumbai, en Inde, et la rencontre avec les dentelières à Alençon a nourri les premiers moments de répétition? À quel point vous leur racontez et transmettez ces histoires-là?
Franchement, on en parle peut-être beaucoup plus de la dentelle à Alençon, mais aussi parce que ça a été beaucoup plus facilement, enfin c'était un accès très rapide, et puis la façon dont Johanna Maubussin parle en fait aussi de la dentelle, parce que c'est en train de disparaître la dentelle, il reste 8 dentelières qui savent faire la dentelle à Alençon. Quand ces 8 dentelières ne seront plus là, la dentelle à Alençon disparaîtra, puisqu'en fait c'est quelque chose qui ne peut pas être appris dans les livres. Donc maintenant c'est classé au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, le savoir-faire. Et j'en ai parlé énormément. J'ai même, ils ont écouté énormément d'enregistrements. On a fait des zooms avec Johanna. On a écouté des émissions aussi qui ont été faites sur France Culture par rapport à ça. Et ça a été très très fort en fait cette rencontre-là. Je pense que vraiment la dentelle d'Alençon a été un point très, très important. Et j'étais heureuse de parler aussi de ces femmes-là. Par exemple, quand j'ai recruté Liliane, qui est pas du tout dentelière, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à chaque fois les gens qui viennent voir des bouts de répétition pensent toujours que Liliane est une vraie dentelière et que je l'ai parachutée dans le spectacle. Pas du tout, Liliane. Je sais même pas si elle sait coudre un ourlet. Je crois qu'elle m'a dit ça un jour. Mais pour autant, je sais que j'avais envie. Je sais que Liliane, elle raconte ces femmes dentelières et Nani aussi d'ailleurs. Et j'avais envie. Après les avoir beaucoup observés, après avoir essayé vraiment de me projeter de ce que c'était ces femmes qui ne parlaient pas pendant des heures et des heures et des heures, de trouver des comédiennes qui étaient capables de nous faire exister cette capacité au silence, justement. Et Liliane, je sais que je l'ai recrutée comme ça, et étonnamment, J'y ai étonnamment parce qu'en fait, je crois que Nani, je m'étais pas dit ça forcément, par exemple, quand je l'avais rencontrée sur Fraternité. Parce qu'au contraire, elle a beaucoup la puissance des mots, parce qu'elle fait du rap, parce que c'est présent dans sa vie, parce qu'au contraire, parler, ça la sauve. Mais en vérité, je me rends compte, en fait, à quel point cette question du silence, là, et de comment est-ce qu'on crée cet espace en soi, pour faire quelque chose, bah, ça lui a parlé aussi immédiatement. Et c'est devenu une dentelière, vraiment.
Liliane Lippo, qui fait partie de... Enfin, c'est la première fois qu'elle monte sur scène,
ouais.
Qui fait partie des comédiens non professionnels, ouais. Et Nani, qui est rappeuse, avait joué dans Fraternité, donc maintenant ouais. elle est plus
amatrice.
Elle est professionnelle.
Ouais.
Est-ce que la façon dont vous avez travaillé là ressemble aux façons précédentes pour le spectacle Fraternité, ou c'est-à-dire dans la durée, sur plusieurs mois, des moments où vous vous rencontrez avec les comédiens et où les improvisations nourrissent l'écriture de la fiction, ou est-ce que la fiction était déjà assez précise?
Ouais. Ça ressemble. Il y a des choses qui ressemblent et des choses qui sont très différentes. Ce qui est très différent, c'est que j'ai écrit le texte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt que d'habitude. J'avais toutes les lignes narratives. Évidemment, elles se sont aussi modifiées. D'ailleurs, elles sont encore en train de se modifier en ce moment. Mais j'avais tout quasiment avant de rentrer en répétition. Et puis là, je signe le texte seul aussi, parce que ça correspond beaucoup plus à la réalité de ce qui s'est passé.
Puisqu'avant, c'était signé avec le collectif de...
Ouais, le terme, c'était Caroline Guylaine-Guyenne, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe artistique. Là, c'est signé, mise en scène et texte de Caroline Guylaine-Guyenne, point. Par contre, ce qu'il y a ce qui continue à être très vrai, enfin très très commun plutôt, c'est que pour écrire, j'ai eu besoin de passer par les improvisations, mais pas tant pour me révéler des lignes narratives que pour entendre en fait la façon dont ça parle. Moi, je suis toujours, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire dès qu'on sent que c'est un texte, ça me stresse. J'ai l'impression que du coup on est, enfin, j'ai l'impression que du coup on n'est pas avec les personnages, on n'est pas avec l'histoire. J'ai l'impression qu'on est que avec moi qui signerait ce texte et ça m'intéresse pas. Donc j'ai passé beaucoup de temps en improvisation, mais pas tant finalement pour révéler des lignes narratives ou écrire une scène, non, pour que j'entende parler en fait. Voilà. Et ce qu'il y a évidemment de très commun, c'est qu'il y a la moitié de la distribution qui sont des comédiens et comédiennes non professionnels, d'autres qui sont professionnels. Pour une raison aussi, je dis toujours un peu la même chose, mais ce que je pense que c'est toujours important de l'avoir en tête, c'est que, par exemple, j'avais besoin pour Lacrima, justement par rapport à la fiction dont je parle sur la question indienne, tout ça, j'avais besoin d'une femme de 60 ans à peu près, qui sache parler le français, mais qui sache parler le tamoul, en fait, dont le tamoul serait la langue maternelle. Et ben en France, une femme comédienne de 60 ans qui parle le tamoul, il n'y en a pas. Donc, en fait, j'étais obligée d'aller chercher une comédienne non professionnelle. Donc, on a Raji qui est avec nous, et c'est super, elle est strasbourgeoise, on l'a rencontrée ici, donc on a fait tout un travail ici avec le TNS pour pouvoir rencontrer, du coup, des gens. Et voilà, et c'est pour ça aussi que Raji est là, et qu'il y a des comédiennes, principalement, ce sont que des femmes non professionnelles sur le projet.
Vous pouvez être moins collé à la table, hein, Dan, vous pouvez être un peu plus avancé. Voilà, ok.
Comment vous sentez-vous?
C'est comme si notre enfant quittait la maison. Mais on sait ici, on sait qu'il ne reviendra jamais.
Combien de temps il vous a fallu pour restaurer ce vol?
Plus de 2000 heures. Mais bon, on est des petites joueuses.
Pourquoi?
Parce que nous, on a mis 7 mois sur cette œuvre et on y attachait quand même une partie de notre corps. Alors pensez nos mères qui ont mis 30 ans là-dessus, c'est inimaginable. Vous imaginez ça, vous?
Je peux imaginer, oui.
Oh non, vous ne comprenez pas. Enfin, c'est pas grave, nous, on se comprend. Nous allons donc renfermer la pièce.
Et est-ce qu'il y a une théâtralité un peu plus à vue que d'habitude, dans le sens où les comédiens jouent plusieurs rôles,
ouais.
Et le lieu, la scénographie se transforme et on navigue entre trois lieux différents, entre Mumbai, Alençon et Paris.
Ouais, ouais, complètement. Déjà, alors là, c'est la nouveauté, mais totale, je l'ai jamais fait de ma vie. C'est que moi, je suis tellement focale sur la croyance que c'était vraiment inimaginable pour moi de faire jouer un personnage, enfin, de faire jouer un comédien, enfin, faire jouer à un comédien plusieurs personnages, j'ai même encore du mal à le dire.
Pourquoi c'était inimaginable?
Parce que j'avais besoin que le spectateur puisse se dire ça arrive vraiment, en fait, c'est vraiment là, c'est vraiment lui. Alors c'est dans une manipulation douce, enfin bienveillante, on va dire. Je fais tout pour que quand on sort de nos spectacles, on sache quand même de façon très rationnelle que on a vu une fiction. Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on y croit, en fait. J'ai besoin que. Et donc c'était pas imaginable pour moi que, par exemple, si je reprends Fraternité ou Saigon, que le personnage que jouait Dan joue un autre personnage, c'était pas possible. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de re-questionner non pas cette croyance, parce qu'en fait, je cherche toujours en fait à ce qu'on y croit, mais de me laisser la possibilité que le théâtre, donc la possibilité que ce soit que un comédien joue plusieurs rôles, me permette quand même cette croyance. C'est-à-dire, j'ai arrêté d'être méfiante en fait, et je me suis dit allez, allons-y, essayons. Mais c'était drôle parce qu'au début, je m'en souviens, mes collaborateurs et collaboratrices historiques, on va dire, m'ont tout de suite dit bon, ça, franchement, ça va durer une semaine et tu vas très vite revenir sur ça.
Ils n'ont pas cru.
Et ben, force est de constater qu'en fait, j'étais hyper enthousiaste. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, ça me permet aussi de déployer plein de fils narratifs. Ça, c'est vrai que du coup, ça comble une gourmandise comme ça que j'ai sur les, ouais, le récit choral. Parce que du coup, ben, j'ai besoin d'un médecin à Mumbai, d'un médecin à Alençon et d'un médecin à Paris. Ben, voilà, je peux imaginer ça, quoi. Ça libère mon imaginaire, quoi, vraiment.
Et la scénographie est un peu moins réaliste que parfois.
Elle est un peu moins réaliste. Après, finalement, la scénographie, là où moi je me raccroche tout le temps au réalisme quand même de cette scéno, parce que j'en ai besoin, c'est qu'en fait, elle n'est pas câblée tellement... Enfin, elle ne raconte pas effectivement le lieu, mais elle raconte la fabrique. Elle est très réaliste par rapport à la fabrique. C'est-à-dire que les tables des dentelières sont les tables des dentelières, les tables sur lesquelles on coupe un tissu sont les tables sur lesquelles on coupe un tissu.
Et on parlait tout à l'heure du silence, et on ne va pas raconter toutes les histoires, mais il y a beaucoup de situations de violence intime qui sont révélées. Oui. Et dans la pièce, Lacrima, on a la sensation, parce que dans chaque lieu, il y a différentes générations, que les enfants aussi... finalement refuse l'injustice et demande justice. Il y a une phrase d'une jeune femme, apprend à vivre, papa, la tête un peu plus redressée.
Ouais.
Et à la fin, on parle aussi d'un incendie qui pourrait être comme l'injustice dont on parle. Et la fille dit, c'est moi qui vais éteindre cet incendie. Comme si finalement, une nouvelle génération arrivait et que le silence explosait et que... l'injustice pouvait plus poursuivre.
Ouais. Bah là, franchement, ça m'est venu en écriture. Alors peut-être parce que si je suis directrice maintenant d'une école et que du coup, je vois aussi ça très, très en marche dans les générations qui sont là actuellement. Hein. Mais aussi parce que là, pour le coup, en faisant des impros, c'est marrant, je me suis dit, il y a un moment, j'ai lancé Dina et Liliane sur une improvisation. Je sais même pas si elles jouaient les dentelières. Je m'en souviens plus quel personnage elles jouaient, mais en tout cas, donc Liliane et Dina ont à peu près dans les 70 ans. Et je les ai lancées sur une improvisation où tout d'un coup, en fait, il était question... Alors là, je vais raconter tout à fait autre chose pour pas du tout spoiler, mais où il était question d'un secret comme ça qui, en fait, aurait eu lieu il y a 15, 20 ans, même 40, 45 ans, et qu'elles auraient tué comme ça aux yeux de tous. Et je me suis dit, tiens, c'est dingue, parce que je me suis dit, ça, enfin, j'y crois totalement, et je crois totalement au fait qu'aujourd'hui, la question de comment est-ce qu'on garde un secret est beaucoup plus beaucoup plus challengée qu'il y a 20 ans, même 10 ans. Et que c'est lié, alors évidemment, on pourrait dire, même par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ça, enfin maintenant, très concrètement, hein, les choses sortent, voilà. Mais aussi, voilà, à cette génération qui, en tout cas avec ces femmes-là, ces personnages-là, de jeunes femmes, qui, en fait, mais d'une façon ou d'une autre, hein, d'ailleurs, il y en a une qui révèle un secret, mais malgré elle, en fait, c'est parce qu'elle a besoin de que tout d'un coup, ce qui est enfoui depuis des années sorte. Mais quelque part, en fait, elle a besoin de briser, effectivement, ce qui n'a jamais été dit, en fait. Le silence est beaucoup moins acceptable. Hein. Mais je l'ai pas, vous voyez, je l'ai pas imaginé d'emblée. C'est pas venu comme une théorie. Je me suis pas dit bon bah allez, les personnes âgées, du coup, ils vont être ceux qui installent le silence, et puis les jeunes, ils vont le faire péter. Non. En fait, sincèrement, c'est vraiment venu. Moi, je ne passe que par des personnages, que par des histoires, et je voyais bien, dès que je mettais en scène des personnages qui avaient, là il y a Anel qui joue un personnage qui a 14, 15 ans, ou même Nani qui joue un personnage qui a 22, 23 ans, je vois bien que c'est pas du tout quand j'écris les lignes, qu'en fait ce sont des lignes qui amènent à quand est-ce qu'on dit les choses, quand est-ce qu'on se met face, quand est-ce que ça s'éteint, quoi, l'incendie, quoi, enfin vraiment, et je le sens en passant par les personnages, c'est pas théorique.
Et en même temps, c'est à chaque fois un risque, parce que très concrètement, il y a une jeune femme dont on parle en Inde qui a décidé de manifester contre des injustices et elle a disparu.
Ouais.
Il y a des...
Ouais, complètement.
Il y a des vrais risques qui sont pris.
Ouais, complètement. Je suis en train de la modifier, cette ligne-là. Pas parce que elle est très très belle, mais en fait elle est très... De toute façon, moi je suis tellement gourmande qu'effectivement, quand je suis allée en Inde... J'avais envie aussi de mettre un personnage de femme indienne qui était militante et qui en fait affirmait des positions éthiques, politiques. J'avais envie de mettre en scène ce personnage-là de femme. C'est comme ça que je suis arrivée en fait à cette fiction-là. Et là actuellement, je suis en train, justement, ça c'est le travail, il reste 2 semaines, la première est dans 2 semaines, mais c'est bien, c'est exactement le moment pour le faire. Et là, on est en train de la rapprocher plus sur la question de la robe. Mais effectivement, elle continuera à dire à son père, « Papa, redresse un peu la tête, quoi. » Parce que les brodeurs, d'ailleurs, sont tout le temps la tête baissée de plus en plus sur la broderie. Même pour voir de plus en plus, ils ont les yeux de plus en plus braqués sur les perles. Et elle dit, « Mais papa, en fait, vas-y, lève la tête un peu. » Enfin, et comment est-ce que cette jeune femme, finalement, dit à son père, « Tu as de l'or entre les mains, et en fait, tu dois le savoir. » Et ça, j'avais l'impression que ça ne pouvait être que sa fille, que sa jeune fille qui pouvait le lui dire.
Et c'est la première pièce qui va être publiée en tant que telle aux éditions Actes Sud. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ouais, ben beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que... Et c'est vrai que je dois vraiment... Enfin, Claire David, elle m'avait toujours poussée, en fait, à publier mes pièces. C'est vrai que pendant très longtemps, pour plein de raisons qui seraient un peu compliquées à développer ici, mais j'ai pas voulu le faire. Et c'est vrai que c'est marrant, c'est comme si le fait que j'ai passé toujours beaucoup de temps à faire disparaître, en tout cas à ne pas mettre en avant mon style, on va dire, mais vraiment d'essayer de justement que je disparaisse pour faire entendre la parole, la façon dont ça parle plutôt des personnages, pas la parole, la façon dont ça parle juste. C'est comme si on en oubliait qu'il y avait un texte et une construction narrative qui peut être plus ou moins réussie, bien sûr, hein, ça c'est encore autre chose, mais c'est comme si on oubliait cette fabrique-là, pour le coup, hein, cet artisanat-là, enfin. Et là, je sentais qu'en fait, j'étais arrivée à un moment où ça n'était plus possible, en fait, que ça ne soit pas, mais pour moi aussi, valorisé, qu'en fait, je passe vraiment la moitié de ma vie à écrire, et que je crois que c'était important pour moi que ça puisse exister maintenant concrètement dans une, et c'est vrai que ben le livre des mots noirs sur du papier blanc et ben oui, en fait c'est la meilleure façon de le faire exister. Avant, avec Claire David, je lui disais mais non, il y avait plein d'autres façons de le faire exister. Elle m'a dit passe à ça, et ça m'a permis aussi de d'avoir ça m'a permis aussi d'avoir là quelque chose qui me permet d'être au milieu de façon plus, le texte est au milieu de tout le monde. Pendant très longtemps, le texte en fait restait dans la mémoire de tout le monde, et après on le mettait à plat. Et c'est vrai qu'à des moments, les gens devenaient fous, c'est-à-dire même pour les top techniques et tout. Franchement, les gens disaient attends, mais quand est-ce qu'on peut avoir le texte écrit ? Et je sais pas pourquoi, j'avais tellement peur que le texte vienne empêcher la parole des gens, que du coup je le différais toujours. Et en fait, j'ai arrêté d'avoir peur, simplement de me dire c'est pas grave, maintenant je sais, je vais écrire, on va l'apprendre. Il y a un moment où ça va être difficile parce que j'ai vraiment avoir l'impression que c'est qu'un texte, mais maintenant avec l'expérience, je sais très bien qu'en fait c'est du travail et qu'on retrouvera, je l'espère, la voix derrière des personnages, quoi, derrière le texte, devant le texte plutôt même.
Écoute la voix de Stéphane Braunschweig en 2001, lui qui dirigeait le Théâtre National de Strasbourg quand Caroline Guillain-Guyen y était élève, avant de devenir elle-même la directrice depuis 2023.
C'est vrai que l'école pour moi est un enjeu énorme, enfin j'y passe beaucoup beaucoup de temps. On vient de créer une sorte de nouvelle section, puisqu'avant à l'école du TNS on formait des comédiens, des régisseurs et des scénographes. À partir de l'année prochaine, il va y avoir aussi deux élèves metteurs en scène et une élève dramaturge. Donc en fait, on ouvre une nouvelle section. Ça veut dire évidemment beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et là, j'ai absolument besoin de partenaires autour de moi qui sont en particulier les membres de la troupe permanente.
Mais une école, c'est bien, un théâtre, c'est bien, mais instaurer un lien entre le théâtre et l'école, c'est mieux et c'est plus difficile.
C'est un vrai objectif. On verra effectivement au bout de quelques années comment on y arrive. Alors il y a un certain nombre de choses qui se font simplement par la volonté, les choix de direction. Après, c'est voir comment ça dialogue, c'est-à-dire l'endroit de la dialectique. Il faut aussi, enfin, ce dont on a envie, c'est évidemment que, par exemple, pour les élèves metteurs en scène. J'ai pas envie de faire des clones. Il est évident que former des metteurs en scène, d'ailleurs, c'est plus former des metteurs en scène que de donner une formation à la mise en scène qui serait abstraite, théorique, comme si la mise en scène, ça pouvait s'enseigner de manière canonique. Par contre, de former des metteurs en scène, c'est-à-dire de les aider à définir leur propre projet, leur propre démarche, ça demande à la fois beaucoup d'ouverture et d'humilité de notre part pour le faire. Mais l'école du TNS a la structure qui le permet, parce que c'est vrai que c'est une école où il y a finalement relativement peu d'élèves, où on peut avoir des parcours assez individualisés.
Ça, c'était il y a 23 ans. Et c'est le moment où a été créée cette section mise en scène, dramaturgie. 23 ans plus tard, maintenant, vous êtes directrice du TNS. Il y a toujours l'école.
Ouais.
C'est quoi, selon vous, les défis d'aujourd'hui, en tout cas pour l'école et pour le théâtre? Parce que là, il parle de la relation entre le théâtre et l'école. Mais aujourd'hui...
Ouais. Bah, franchement, il y en a plein... je pourrais me retrouver d'ailleurs dans pas mal de choses que dit Stéphane, hein, sur le temps passé à l'école, sur la formation des metteurs en scène, tout ça. Là, concrètement, par exemple, on a fait un événement il y a un mois de ça, non pardon, c'était au mois de février, qui s'appelle « Envisager la nuit ». Cet événement, on a décidé de le créer parce que je sentais, et enfin même finalement avant de rentrer, mais dans l'école du coup c'était très très concret, qu'il y avait énormément de questions qui agitent aujourd'hui les jeunes créateurs qui arrivent dans les écoles. Des questions qui sont très larges, qui sont très profondes, qui peuvent aller de est-ce qu'il faut des trigger warnings dans toutes les salles? Est-ce que du coup, qu'est-ce que c'est que la cancel culture? Est-ce qu'il faut des accents sur les plateaux? Qu'est-ce que c'est d'avoir un accent? Toutes ces questions-là. Et toutes ces questions, j'ai décidé, et c'est vraiment des choses que je dis à toutes les équipes et qu'on porte très fort, que ces questions auront une place à l'école du TNS et dans le théâtre. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir des questions qui se posent au troisième étage, et par contre une programmation qui est complètement hermétique à ça. Ça n'aurait pas de sens. Donc déjà, un théâtre-école, c'est aussi que du coup, si on répond à la question de quels sont les accents sur les plateaux, je veux que dans la programmation, il puisse y avoir des accents sur les plateaux. Que du coup, on n'ait pas l'impression de vivre des choses à deux vitesses ou de façon contradictoire. Bref, en tout cas, ces questions-là qui agitent cette génération, et évidemment, j'en suis très heureuse, parce qu'il y a beaucoup de ces questions, pas toutes, mais beaucoup de ces questions que moi, finalement, je ne m'étais pas posées à mon époque et qui pour autant auraient mérité d'être posées. Et donc, je leur ai dit, ben, ok, en fait, faisons ça. Ces questions peuvent polariser de façon très forte. Elles peuvent créer des conflits très, très forts. Mais j'ai aussi décidé que cette école serait une école dans laquelle, en fait, il n'y aurait pas de guerre. Dans laquelle, en fait, on allait construire ensemble. Et pour moi, je passe énormément de temps à dire, ces questions sont légitimes. Elles sont fortes, elles sont puissantes. Par contre, ça n'est pas la guerre. Ça, c'est pas possible. Et donc, on s'est dit, venez, on va inventer un principe. C'est est-ce que les questions dont on ne peut pas parler dans la journée, parce que pour des raisons X ou Y, elle crée justement des conflits insurmontables. Qu'est-ce que ça fait si on les pose la nuit? Qu'est-ce que ça fait si tout d'un coup on convoque des gens la nuit, de 23h à 7h du matin, pour poser ces questions qu'on n'arrive pas à parler la journée? Et du coup, j'ai demandé aux élèves de l'école de porter en fait cette nuit de débat, d'inviter les gens, d'inviter les personnes. Et là, le premier épisode d'Envisager la nuit, c'était quelle langue dans ma bouche. Et donc, du coup, la question des langues sur le plateau, la question des accents. L'année prochaine, on aura encore un autre Envisager la nuit sur d'autres problématiques. Et d'inviter des personnes qui peuvent aller de Fatou Diom à Thiago Rodriguez, des personnes aussi qui peuvent vraiment rentrer dans des... On a vraiment eu des grands débats. Hein, je veux dire, c'est loin d'être uniquement dans quelque chose de très consensuel, pas du tout. Enfin, vraiment, on a décidé qu'on y allait. Mais comment est-ce qu'en fait on construit ensemble? Voilà. Bah, moi, par exemple, ça, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je me dis que ces questions, elles sont là, elles sont légitimes. On essaye de, que ça puisse construire. On essaye aussi de donner quelque chose. Dans une école, on est toujours à la fois dans quelque chose de maintenant, mais on est aussi toujours tendu vers demain. On est toujours tendu vers la promotion qui va arriver, vers celle qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. C'est quelque chose qui est très, très intégré dans des écoles. Moi, quand j'y étais, vraiment, la notion de qui va arriver après nous est toujours très présente. Et ben voilà, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'en fait, on ne cesse finalement ces questions, comment ces questions peuvent être là? Voilà, et créer la suite. Puis après, ça passe par plein d'autres choses. Hein. Là, je parle d'envisager la nuit, mais parce que c'était emblématique, en fait, de ça, voilà. Et alors après, moi je sais que par exemple là, et c'est super, hein, on a des élèves qui viennent, enfin comme je dis, des quatre coins de l'époque, qui ont des langues maternelles qui sont pas forcément le français. Et ben c'est important pour moi que dans la programmation, qu'on ne cesse de leur dire, en fait vous êtes là dans l'école. Moi je leur dis, je sais bien vous êtes là. Parce qu'en fait, on a besoin de vous pour faire le théâtre de maintenant et de demain. Bah, du coup, dans la programmation, moi, j'ai besoin qu'ils le voient. Que ce soit pas juste théorique, on a besoin de vous. Mais oui, mais dans 10 ans, non, c'est maintenant. Donc, bah, évidemment, on est tout le temps en train d'essayer de créer aussi une programmation qui nous est inspirée ou en tout cas qui nous paraît en cohésion avec ce que ces jeunes artistes aussi attendent attendent, voilà. Et des fois ils savent pas ce qu'ils attendent et nous non plus, mais on essaye de voir comment est-ce qu'on co-construit les choses.
Et c'est pas rien déjà de leur dire mais ce sera pas la guerre, parce qu'on est entouré de ça.
Ouais.
Dans l'actualité, dans les médias,
totalement. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose que je pourrais écrire sur les murs du TNS. Ici, ça ne sera pas la guerre.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la prise de son Florent Layani, au mixage Bruno Mourlan.